Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens de ce mercredi 14 février 2018. Hélène Denis avec vous. Février, il me semble que c'est une date particulière, Jean-Sébastien.
Ben, en effet, Hélène, c'est la journée internationale de la sensibilisation aux cardiopathies congénitales.
Ah, ça...
c'est un rapport avec le cœur, mais oui, bonne Saint-Valentin, Hélène.
Ben, bonne Saint-Valentin, Jean-Sébastien. Et j'ai trouvé dans le studio, je pense que ce sont les collaborateurs de l'émission Les Voix de service qui ont laissé une belle tablette de chocolat. Est-ce que vous y avez goûté amande et orange chocolat noir?
C'est délicieux, c'est gracieuseté de M. Serge Bradet.
Oh, du chocolat suisse. Merci, Serge. Alors, je vous écoute en cette journée de Saint-Valentin. J'espère que vous allez faire battre les cœurs.
14 février, plusieurs événements, certains joyeux, certains un peu moins. 14 février 1349, on parle du massacre des Juifs de Strasbourg, accusés d'être responsables de la Grande Peste. On parle donc du massacre de 900 des 1800 habitants de Strasbourg, littéralement la moitié de la ville. C'est un des massacres de la Saint-Valentin, donc le massacre de la Saint-Valentin de 1349. Il y a, vous comprenez donc avec ma tournure de phrase qu'il y aura d'autres massacres de la Saint-Valentin, certains que je vais vous nommer dans quelques instants.
Bien triste.
1477, à Norfolk, en Angleterre, Marjorie Bruce envoie à John Paston le premier billet doux de la Saint-Valentin qui soit recensé. Donc, une des nombreuses origines de la Saint-Valentin en 1477.
Qu'est-ce qu'il y avait d'écrit?
Malheureusement, la transcription n'est pas parvenue jusqu'à mes yeux ce matin. 1663, le Canada devient une province du royaume de France. 1876, à 2 heures d'intervalle, Alexander Graham Bell et Elisha Gray déposent chacun un brevet pour le téléphone.
Important ça pour la Saint-Valentin.
Absolument. La Cour suprême des États-Unis statuera que Bell est légalement l'inventeur. 14 février 1915, première conversation téléphonique entre Montréal et Vancouver avec ce téléphone de Alexander Graham Bell. 1918 à Hollywood, sortie du premier film de Tarzan. 1918 toujours, cette fois plus près de nous, à l'orphelinat des Sœurs Grises à Montréal, à l'angle du boulevard Dorchester et de la rue Saint-Mathieu, le feu fait 64 morts, principalement des enfants âgés de 0 à 3 ans. 1920, Québec adopte la loi rendant autonome l'Université de Montréal, jusque-là l'Université de Montréal, qui était une succursale de l'Université Laval. 1929, un autre massacre de la Saint-Valentin, meurtre de 7 gangsters rivaux d'Al Capone abattus dans un garage à Chicago. 14 février 1929, découverte de la pénicilline. 1933, inauguration à Paris du service d'horloge parlante accessible par téléphone, un service qui, semble-t-il, est encore en vigueur. Quoique, avec le nombre d'appareils disponibles aujourd'hui qui peuvent nous donner l'heure juste, possiblement un service un peu moins populaire qu'à l'époque. 1945, Seconde Guerre mondiale, 14 février, des centaines de milliers de bombes détruisent Dresden en Allemagne. Donc, non pas plusieurs milliers, mais plusieurs centaines de milliers de bombes. 1946, en Pennsylvanie, l'Electronic Numerical Integrator and Computer est le premier ordinateur électronique à fonctionner avec un maigre poids de 30 tonnes et une petite taille de 167 mètres carrés ou, si vous préférez, 1800 pieds carrés. 1984, à Sarajevo, le patineur de vitesse Gaëtan Boucher gagne l'or olympique sur 1000 mètres. 1972, première de Grease à Broadway, quelques 6 ans avant la version cinématographique, avec notamment Travolta et Olivia Newton-John. 1989, le régime iranien appelle au meurtre de Salman Rushdie. Il y a 2 jours, je vous parlais de ses versets sataniques à Islamabad. On était donc au Pakistan et maintenant nous sommes en Iran. Avec ses appels au meurtre de Salman Rushdie pour son roman « Les versets sataniques » jugé sacrilège. En 2001, c'était il n'y a pas si longtemps, le Kansas revalide l'enseignement de la théorie de l'évolution de Darwin qui fut éclipsé pendant une bonne période de temps par l'intégrisme biblique, donc on parlait du créationnisme et non pas de la théorie de l'évolution pour les origines de notre planète. En 2002, 14 février, toujours naissance à l'Université du Texas du premier chat cloné, avec un nom qui ne s'invente pas, le copycat. Et toujours dans le monde du clonage en 2003, mort de la brebis Dolly, premier mammifère cloné de l'histoire. En 2003, toujours, le chef inspecteur de l'ONU déclare devant le Conseil de sécurité de l'ONU que, grande surprise, ses experts n'ont trouvé aucune arme de destruction massive en Irak, après des mois et des mois d'avis contraires de la part du gouvernement américain.
J'entends l'ironie dans votre voix.
Si peu, si peu. En 2005, lancement du très populaire site YouTube, cette chaîne de visionnement vidéo qui est un des sites les plus consultés encore aujourd'hui. En 2010, aux Jeux de Vancouver, le skieur acrobatique Alexandre Bilodeau remporte l'or en bosse. Et finalement, en 2013, l'athlète sud-africain Oscar Pistorius est arrêté à Pretoria à la suite de la mort par balle de sa petite amie, la mannequin Reva Steenkamp. Pour ce qui est des anniversaires de décès, en fait, je ne retiens qu'un nom dans les anniversaires de naissance et de décès, cette chronique étant déjà assez longue. Le décès à l'an 273, selon les sources, 270, 272, 278.
Dans
donc
ces eaux-là.
Effectivement, entre les années 200 et les années 300, le décès de Valentin de Terni, troisième évêque de Terni et martyr, le saint patron des amoureux. Je ne vous raconterai pas son histoire, car notre ami Serge Bradel l'a raconté en beaucoup plus de 6 minutes et c'était fort intéressant. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les origines de la Saint-Valentin, je vous invite à réécouter l'émission Les Voix de service de ce 14 février.
Avec plaisir. Et ce que je retiens de votre chronique, ce n'est pas parce que c'est la fête de l'amour que l'amour règne partout, hein?
Non. C'est un effort de chaque instant.
Eh oui. Merci beaucoup, cher Jean-Sébastien. Et à la une de la presse, Pyeongchang, courte piste, dérapage, une médaille de bronze et des menaces de mort pour Kim Boutin. Réaction. Inconduite sexuelle, dis-je bien, Oxfam, 3 cas en 10 ans chez Oxfam Québec. La chronique de Marie-Claude Lortie, La montagne cul-de-sac. Cannabis médical, 277 millions investis par un fonds mystérieux. Pause oxygène, macho en plein air. Pas facile d'être une fille dans l'industrie de l'aventure, même si le Québec fait figure de gentleman. Des milliers de partisans coréens ont insulté la patineuse québécoise sur les réseaux sociaux à la suite de la disqualification de sa rivale sud-coréenne. L'euphorie n'aura pas duré très longtemps pour la cherbrookoise Kim Boutin. Dès le moment où Boutin a hérité de la médaille de bronze à la suite de la disqualification en finale du 500 mètres sur courte piste de la sud-coréenne Choi Min-jeong, une athlète de 19 ans qui a plusieurs titres mondiaux à son actif, une véritable pluie d'insultes et de menaces s'est abattue sur la patineuse québécoise. Des milliers de partisans coréens ont pris d'assaut ses comptes sur les réseaux sociaux, au point où Boutin les a tous fermés au cours de la journée. « Tu n'es pas une vraie athlète. Si je te trouve, tu vas mourir. Prends ta retraite et je souhaite que ta vie soit difficile », disaient certains messages, selon une traduction publiée par Radio-Canada. Les commentaires ont été éparpillés sur des photos publiées par l'athlète de 23 ans. En fin de soirée, hier, heure de l'Est, le Comité international olympique a condamné les propos menaçants à l'endroit des athlètes. Malheureusement ou heureusement, nous ne pourrons pas contrôler les médias sociaux et le public a le droit de s'exprimer, a fait valoir le porte-parole Mark Adams, questionné à propos de Kim Boutin au briefing quotidien du CIO. « Je n'ai pas vu moi-même ces commentaires, mais malheureusement, ce genre de phénomène se produit et c'est quelque chose que nous n'approuvons absolument pas », a dit Mark Adams. Monsieur Adams a rappelé que la sécurité des athlètes relevait des comités olympiques nationaux, en l'occurrence le Comité olympique canadien dans le cas de Boutin. Quelques heures plus tôt, le COC, donc Comité olympique canadien, avait publié un communiqué laconique indiquant que la santé et la sécurité de tous les membres de notre équipe sont une priorité et que nous travaillons actuellement en étroite collaboration avec Patinage de vitesse Canada, notre personnel responsable de la sécurité, et la Gendarmerie royale du Canada. Le comité a ajouté qu'aucun autre commentaire ne serait formulé à ce sujet pour permettre à Kim de se concentrer sur ses épreuves à venir. D'autres internautes sud-coréens ont tenté de répliquer aux insultes en offrant des mots d'encouragement à la jeune patineuse et en soulignant que l'arbitre était celui qui avait pris la décision. Mais les remarques haineuses les ont largement surpassées en nombre. Inconduite sexuelle, Oxfam Québec qui dit adopter une attitude proactive pour empêcher toute inconduite sexuelle parmi son personnel a, depuis 10 ans, coupé les ponts avec 3 employés en poste à l'étranger après avoir pris connaissance d'allégations de cette nature. L'organisation humanitaire avait révélé ces cas à la presse hier en faisant valoir que la direction enclenche des vérifications dès qu'elle est confrontée à des rumeurs d'inconduite et même en l'absence de plainte et demande un suivi avec une vigilance particulière de ses équipes. Oxfam Québec précise que l'organisation n'a jamais pu valider s'il s'agissait de prostituées ou non dans l'un des cas, car il n'y a pas eu de plainte formelle ni de témoins. Les 2 coopérants ont apparemment nié les allégations avant d'abandonner leur fonction. Il s'agit ici d'un des cas signalés par Oxfam Québec, une intervention qui a été faite en 2008, après que des rumeurs de soirées à caractère sexuel en groupe impliquant 2 employés de l'organisation en poste en République démocratique du Congo eurent circulé. Oxfam Canada, qui est indépendante d'Oxfam Québec, a indiqué pour sa part avoir dû composer avec 2 cas d'inconduite sexuelle sur une période de 10 ans. Une enquête pour de possibles malversations financières a permis notamment de découvrir qu'un employé avait stocké du matériel pornographique sur l'ordinateur fourni par l'organisation. Les 2 organisations canadiennes ont révélé ces cas alors qu'un vaste scandale secoue Oxfam Grande-Bretagne, une autre organisation indépendante regroupée, comme elle, sous la bannière d'Oxfam International. Et le scandale entourant l'ONG Oxfam s'est étendu hier avec de nouvelles accusations, cette fois de viol contre certains de ses employés au Soudan du Sud. Helen Evans, directrice de la prévention interne à Oxfam de 2012 à 2015, a dénoncé sur Channel 4 l'existence d'une culture de sévices sexuels au sein de certains bureaux, faisant état de viols ou tentatives de viols au Soudan du Sud ou d'agressions sur des mineurs bénévoles dans des magasins de l'ONG au Royaume-Uni. Ces nouvelles accusations ont surgi après des révélations sur le recours à des prostituées et de potentielles agressions sexuelles par certains agents d'Oxfam au Tchad et en Haïti. Deux mois après avoir été relevé de son poste de chef de police de Montréal, Philippe Pichet vient d'être réaffecté au sein de la métropole. Son nouveau rôle l'amènera à superviser le travail des agents de sécurité qui patrouillent notamment à l'hôtel de ville, a appris la presse. Philippe Pichet était de passage hier en fin de journée à l'hôtel de ville pour rencontrer le directeur général de Montréal, Alain Marcoux. Ce dernier l'a informé qu'il était désormais réaffecté au service de la gestion des immeubles. Il n'a pas été possible de connaître avec précision le poste qu'il occupera, mais son rôle sera d'aider à la gestion des agents de sécurité. Dénonciation sur Twitter, le mot « clic » moi aussi gagne la Mecque. Des musulmanes du monde entier dénoncent à leur tour des agressions ou des inconduites sexuelles et cette fois, elles abordent un double tabou. Avec le mot « clic » mosquée MeToo, elles sont des milliers à oser raconter sur Twitter la mauvaise expérience qu'elles ont vécue dans un lieu sacré, notamment lors du pèlerinage à la Mecque, la ville la plus sainte de l'islam, un mouvement qui ne vient pas sans de vives critiques. Et pour terminer cette revue de presse de la presse, 2 jours après l'écrasement d'un Antonov russe près de Moscou, ces boîtes noires ont commencé à parler hier, révélant un possible givrage de sondes de vitesse Pitot, P-I-T-O-T. Appelées aussi tubes de Pitot, ces sondes permettent aux pilotes de contrôler la vitesse de leur appareil, un élément crucial pour son équilibre en vol. Si ces sondes sont encrassées par du givre ou des débris, une mesure incorrecte de la vitesse peut être fournie au pilote, ce qui risque d'entraîner un décrochage de l'appareil si celui vole trop lentement ou une déformation de l'avion si celui-ci va trop vite. Elles ont été montrées du doigt dans l'accident de l'Airbus A330 d'Air France assurant la liaison Paris-Rio et qui s'était abîmé dans l'océan Atlantique le 1er juin 2009 avec ses 228 occupants. L'accident survenu dimanche en Russie a fait 71 morts.
Je te dévore des yeux tout crus et je file à tête rousse dans la ruelle. Telle une imparfaite inconnue, je te frôle en douce, en criminelle. Je collectionne tes alentours, jalousant les amantes trop belles. Écoute que coûte mon amour, j'ai des sarbacanes dans les prunelles. C'est une histoire qui n'en finit plus de ne jamais commencer. Et toute seule sur un banc, je te regarde passer.
Les mélodies contagieuses d'Ingrid Saint-Pierre avec cette pièce, Valentine.
À la une du Devoir du mercredi 14 février, deux beaux sourires, mais quand même une rançon de la gloire difficile. Kim Boutin, le bronze et la haine. La Sherbrookeoise Kim Boutin que l'on voit ici, félicitée par sa coéquipière Marianne Saint-Gelais, a remporté la médaille de bronze au patinage de vitesse sur courte piste, mais sa performance lui a valu des menaces sur les réseaux sociaux de la part de partisans de la Corée du Sud. Institut en santé mentale de Québec, des infirmières laissées à elles-mêmes. Scandale sexuel, les ONG du Québec tentent de se faire rassurantes. Le cas du géant humanitaire Oxfam rappelle qu'aucun groupe n'est à l'abri de l'infamie. Essai, la vraie nature de Jordan Peterson, célébré par les uns, honni par les autres. Le professeur combat la rectitude politique. On a une photo de lui, sous laquelle est écrit Jordan Peterson est populaire. Son plus récent livre, intitulé 12 Rules for Life, An Antidote to Chaos fait partie des 10 meilleures ventes aux États-Unis, en Grande-Bretagne et au Canada. La police israélienne recommande le dépôt d'accusations pour corruption et fraude contre le premier ministre Benjamin Netanyahou. Justice, Ottawa promet une réponse rapide aux Autochtones. Et autisme, des parents désespèrent d'obtenir l'aide promise. À compter de la fin mars, il n'y aura plus de médecins le soir, la nuit et la fin de semaine à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, une décision qui fait craindre aux infirmières une nouvelle surcharge de travail. On sait très bien que dans les départements de psychiatrie, il y a beaucoup de débordements actuellement. Le personnel est déjà à bout de souffle, explique la vice-présidente du syndicat des professionnels en soins de la capitale nationale, affiliée à la Fédération interprofessionnelle de la santé, la FIC, Joanne Bois. Ces révélations surviennent une semaine après la rencontre du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, avec la présidence de la FIC pour régler les problèmes de surcharge déjà présents dans le réseau. L'Institut compte un peu plus de 300 patients hospitalisés pour des problèmes de santé mentale. Jusqu'à présent, il y avait toujours un médecin généraliste sur place pour intervenir aux besoins sur des problèmes de santé physique imprévus. Or, désormais, ce ne sera plus le cas à compter de 16 heures la semaine, ainsi que la fin de semaine. En guise de remplacement, des médecins seront sur appel, mais pourront dormir chez eux. Au CIU3S, on explique que cette décision découle du départ à la retraite de plusieurs médecins, mais qu'on aurait probablement fait des changements de toute façon pour « moderniser » entre guillemets les soins. Jurés autochtones, Ottawa promet une réponse rapide. Le gouvernement Trudeau promet des réformes très bientôt pour corriger la sous-représentation d'Autochtones au sein des jurys au pays. Mais Ottawa prévient qu'il veut prendre son temps pour travailler de concert avec les provinces en la matière. La famille du jeune Autochtone Colton Bushy, elle, s'impatiente et prévient que le fédéral n'aura d'autre choix que d'agir. La famille est à Ottawa depuis lundi pour dénoncer l'acquittement d'un fermier blanc qui a tué Colton Bushy, alors que ce dernier se trouvait sur la propriété du fermier Gérald Stanley avec quatre de ses amis. Gérald Stanley a été acquitté au terme d'un procès devant un jury composé de 5 hommes et 7 femmes de race blanche. Plusieurs ont remis en cause les récusations péremptoires utilisées par la défense de M. Stanley, une procédure qui permet de refuser un candidat juré sans explication. L'équipe de l'accusé a ainsi refusé 5 candidats jurés aux 13 autochtones. La ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, est catégorique. Des changements seront annoncés sous peu. Il lui suffirait de modifier le code criminel. La Commission sur les soins de fin de vie interpellera tous les établissements du réseau de la santé pour tracer un bilan précis de l'accès aux soins palliatifs au Québec, notamment pour savoir si les patients qui ont demandé l'aide à mourir ont pu avoir accès à de tels soins aux diverses étapes de leur demande. La Commission qui veille à ce que les critères pour l'obtention de l'aide à mourir soient respectés a amorcé sa cueillette d'informations auprès de certains hôpitaux et la poursuivra au cours des prochains mois pour déposer un rapport détaillé sur la question en décembre 2018. C'est ce qu'a fait savoir mardi la présidente de la Commission sur les soins de fin de vie, Mireille Lavoie, invitée à commenter le bilan des 2 ans d'application de la loi concernant les soins de fin de vie, effectuée par Le Devoir dans son édition du 12 février. Or, des médecins interrogés cette semaine sur cette nouvelle cueillette d'informations se sont dit excédés de demandes répétées faites par la Commission. Pour certains médecins pratiquant l'aide à mourir, un acte comportant une lourde composante administrative en raison des formulaires détaillés à remplir, ces nouvelles requêtes sont la goutte qui fait déborder le vase. mauvaise nouvelle en ce jour de la Saint-Valentin, le chocolat qu'on vous offre aujourd'hui dans l'espoir d'attiser votre amour pourrait vous plonger dans la dépression et l'anxiété si vous en abusez. Une nouvelle étude a en effet montré qu'une alimentation riche en gras saturés dont se compose l'huile de palme, principal ingrédient de maint chocolat, non seulement favorise l'obésité et le diabète, mais engendre aussi des comportements dépressifs, anxieux et compulsifs chez la souris. Cette étude, qui a fait l'objet d'un article dans la revue Molecular Metabolism, met en évidence de nouveaux effets délétères des gras saturés sur la santé, soulignant ainsi l'importance de privilégier plutôt les gras insaturés dans notre alimentation. Concrètement, il est préférable de minimiser les gras d'origine animale, les produits laitiers et les aliments transformés comme les pâtisseries et les chocolats, qui sont très souvent préparés avec de l'huile de palme, et d'opter plutôt pour des huiles végétales et des noix comme source de gras. Même si les auteurs de l'étude incriminent avant tout les gras saturés, ils croient néanmoins que c'est la combinaison des gras saturés avec le sucre qui est responsable de l'émergence de l'inflammation et des effets néfastes observés, car certaines études ont suggéré qu'en l'absence de sucre, les gras saturés seuls ne l'induisaient pas. Et la justice britannique a une nouvelle fois refusé mardi de lever le mandat d'arrêt visant Julian Assange, qui ne pourra donc pas sortir libre de l'ambassade d'Équateur à Londres, où il est réfugié depuis bientôt 6 ans. Le tribunal londonien de Westminster, qui avait déjà jugé ce mandat d'arrêt valide le 6 février, a estimé que son maintien n'allait pas à l'encontre de l'intérêt public, comme le soutenait la défense. Bonne Saint-Valentin, tout le monde! Ici Hélène Denis qui vous accompagne. C'est l'émission Le quotidien des quotidiens. Merci d'écouter Canal M de Vues et Voix. À venir, la revue de presse du Journal de Montréal. Ça va vite!
C'est sans importance, laisse décider la chance, cesse de demander pourquoi. Alors on peut dessiner des mots d'amour du bout des lèvres, on peut siffler comme un oiseau quand le soleil se lève, on peut laisser ses mots crever dans sa bouche et pleurer comme un bébé quand le soleil se couche. Qu'on est pour ou qu'on est contre et qu'il faudra choisir un camp. Ah non, allons voir s'il nous est permis de garder l'espoir. On peut dire à celle qu'on aime et qu'elle est belle, recommencer tous les matins quand le soleil se lève. On peut viser tous les cœurs et ne jamais faire mouche et rentrer seul quand le soleil se couche.
Karim Ouellet et la pièce L'amour sur Canal M en cette Saint-Valentin.
À la une du Journal de Montréal, 15 pages sur les Jeux olympiques, le journal à Pyeongchang, des Coréens harcèlent notre médaillé. Des menaces et des commentaires haineux contre Kim Boutin, qui a remporté une médaille de bronze hier après la disqualification d'une patineuse sud-coréenne, sont pris au sérieux au JO. Des libéraux poussent pour l'auto à hydrogène et les gouvernements commencent à investir. Le futur amphithéâtre du CHUM portera le nom Pierre Péladeau. Québecor annonce un don de 15 millions de dollars qui ferait la fierté de son fondateur. Pour souligner ce geste sans précédent, le CHUM a du même coup indiqué que l'amphithéâtre porterait le nom de Pierre Péladeau, le fondateur du Journal de Montréal et de Québecor. Mon père disait « Lorsque vous avez reçu, il faut savoir donner » et cet enseignement, nous le gardons, a lancé Pierre-Carl Péladeau, hier après-midi, qui assistait à l'événement et en compagnie de son jeune frère Jean B. Péladeau. C'est le plus important don jamais consenti par Québecor. Les conducteurs de 75 ans et plus de la région de Québec ont un taux de réussite aux examens de la Société de l'assurance automobile du Québec inférieur aux aînés des autres régions. Depuis 3 ans, Québec termine dernière parmi les 17 régions de la province au classement de la SAAQ, la SAAQ, avec des taux de réussite de 31% en 2017, 40% en 2016 et 41% en 2015. La SAAQ ne peut expliquer pour quelles raisons les aînés de la capitale nationale ont plus de difficultés à passer leur examen. Selon l'organisme, il est possible que la distorsion soit attribuable au plus grand nombre de conducteurs âgés dans la région de Québec. Les 75 ans et plus représentent près de 35 000 conducteurs dans la capitale nationale. Pour eux, conduire est aussi synonyme d'autonomie. Une fillette meurt heurtée par une camionnette. L'enquête va déterminer ce qui s'est passé pour l'enfant qui jouait dans la rue. Les proches de la petite Kayla n'en veulent pas au conducteur qui a heurté la jeune fille dans la cour d'une résidence de la rue Gouin à Gatineau lundi. C'est difficile d'avoir une opinion ou un jugement sur l'accident car on n'était pas présent. On se pose beaucoup de questions. On espère avoir des réponses, a dit l'oncle de la petite Kayla, Ghislain Larocque. Selon des témoins, l'enfant s'amusait après l'école devant une résidence située près du domicile de son père. Un camion l'aurait heurté alors qu'il s'apprêtait à quitter une entrée privée vers 16h20. Kayla fréquentait la maternelle à l'école Carl de Gatineau. Le secrétaire général de la commission scolaire des Draveurs, Patrick Courville, explique que la direction a rapidement offert du soutien psychologique aux élèves et aux membres du personnel de l'école. Feu vert aux caméras dans les chambres. La présence de dispositifs permettra de repérer les cas de maltraitance. La ministre responsable des aînés, Francine Charbonneau, et le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, ont annoncé hier matin l'entrée en vigueur de la réglementation sur l'utilisation de mécanismes de surveillance le 7 mars. La caméra n'est pas là pour juger, mais plutôt pour assurer la sécurité des usagers, indique la ministre Charbonneau. C'est un outil supplémentaire pour mettre en image quelque chose sur laquelle on pourrait avoir un doute. François Paradis, porte-parole pour les aînés à la Coalition Avenir Québec, se demande s'il ne faut pas étendre plus la mesure. Si on établit des balises claires pour les CHSLD, ne faut-il pas le faire aussi pour les résidences privées? Il y en a 1800 au Québec. Je pense que ça a sa place, fait-il valoir. Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, est favorable. Les gens sont chez eux, dans leur chambre, ils devraient pouvoir filmer, indique-t-il. Un homme de Brossard a construit un igloo qui lui permet d'accueillir une quarantaine de voisins pour regarder les matchs du Canadien. Derek Parker n'aime pas l'hiver, mais il affirme que la construction de son igloo derrière sa résidence lui permet de mieux le supporter. Au début, c'était pour mes enfants. Finalement, c'est devenu un endroit où écouter les parties avec amis, famille et voisinage, a dit l'homme de 45 ans qui ne s'en fait pas malgré la saison difficile de son équipe préférée. Derek Parker avait tenté un premier igloo l'hiver dernier, mais il était plus petit et intime. Cette année, sa structure de glace mesure 30 pieds de long, 9 mètres, et près de 12 pieds de large, 3,66 mètres. Il peut contenir jusqu'à 40 partisans. Selon M. Parker, 568 blocs de glace et une centaine d'heures de travail ont été nécessaires pour construire l'igloo sportif. Lors de chacune des parties du Canadien, Derek Parker déplace la télévision familiale de 42 pouces du salon à l'igloo. Ce sont des moments privilégiés. On oublie le résultat de la partie. Chaque match est une fête, a-t-il fait valoir. Un déneigeur frustré fonce sur les bacs. L'employé de la Rive-Nord insultait les résidents qui plaçaient, selon lui, leurs contenants trop près de la rue. Une vidéo diffusée sur Snapchat montre les bacs se faire renverser par la pelle avant du véhicule, tandis que le conducteur de la déneigeuse insulte les gens qui les laissent trop près de la rue. Le conducteur blasphème et fait exprès de renverser le recyclage au sol. La vidéo devait disparaître de Snapchat, mais un autre internaute en a fait une copie et l'a publiée sur Facebook. Simon Giguère-Gariépi était encore dans son lit hier matin quand il a vu la vidéo et a reconnu son entrée de cour sur la rue Athanase Cusson. Il s'est précipité vers la fenêtre pour constater que son bac avait été poussé et que ceux de ses voisins avaient été renversés. La ville de Repentigny confirme que des méfaits ont été rapportés sur au moins 7 rues. Elle a demandé à ce que le fautif qui a reconnu ses torts ne déneige plus dans les rues de la municipalité. Ce secteur est donné à forfait à Excavation Normand Majot, avec qui la ville n'a jamais eu de problème depuis 15 ans. Cette entreprise fait aussi affaire avec des sous-traitants pour qui le conducteur travaillait. Il a été congédié hier. Faut-il en rire ou en pleurer? Un passager en provenance du Brésil a été arrêté à l'aéroport de Lisbonne avec de fausses fesses contenant environ 1 kg de cocaïne, a annoncé hier la police. Les douaniers ont découvert la drogue suffisante pour confectionner 5000 doses individuelles sur le corps du passager, a indiqué dans un communiqué la police. Il avait aussi avalé des sachets de cocaïne, selon le quotidien Publico.
What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by. I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, and I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly, and so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right, this love of mine, my Valentine.
Sir Paul McCartney, My Valentine.
Journaux régionaux, le questionnaire de l'amour, Patrick Duquette, chronique puisqu'on parle d'amour en cette Saint-Valentin. Vous savez qu'à la fin des années 1990, un chercheur américain en psychologie a tenté de recréer le sentiment amoureux en laboratoire. Le pire, c'est qu'il a réussi. Des gens qui ne se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam avant l'expérience ont fini par se marier. Peut-être qu'ils ont aussi fini par divorcer. J'ignore le fin mot de l'histoire. Bref, l'expérience était d'une désarmante simplicité. Tellement que de prime abord, on a de la misère à croire que ça peut marcher. Grosso modo, tu places deux personnes qui ne se connaissent pas dans une pièce. Pendant 90 minutes, elles doivent se poser des questions à tour de rôle. À mesure que l'expérience avance, les questions deviennent de plus en plus intimes sans devenir à caractère sexuel. C'est une expérience sur l'intimité, pas sur la séduction. En fait, le docteur Arthur Aaron, ou Arthur Aaron, cherchait à recréer ce qui se passe quand deux personnes commencent à se fréquenter. Les premières questions portent souvent sur des banalités. Aimes-tu le cinéma, les pâtes aux crevettes, la natation? C'est seulement à mesure qu'un couple s'apprivoise que les sujets deviennent plus personnels. Bref, l'hypothèse du chercheur, c'était que le sentiment amoureux naîtrait dans cette zone d'intimité où les deux partenaires s'exposent dans toute leur vulnérabilité. Son expérience se conclut par un exercice intimidant au possible. Les deux inconnus doivent se regarder les yeux dans les yeux pendant 4 minutes. Si ça marche, tout ce que je peux vous dire, c'est que le questionnaire de l'amour fait son petit effet même sur des couples au long cours, comme le mien. Je l'ai essayé avec ma blonde. Nous sommes ensemble depuis 12 ans. D'accord, on a un peu triché sur les paramètres scientifiques en agrémentant l'expérience d'un délicieux repas et d'une bonne bouteille de vin. Mais pour le reste, tout y était. Pour tout vous dire, on ne s'est jamais rendu au bout des 36 questions. Pas même au bout de la 12e. Pas eu besoin. Le questionnaire nous a vite amenés ailleurs dans un voyage aussi inattendu qu'agréable. On pense se connaître par cœur après toutes ces années, mais pas tant que ça. Ces questions ont fait surgir de part et d'autre des confidences inattendues, des surprises, de vieux souvenirs enfouis. On a ri, on a pleuré, on a jasé longuement avec l'impression de se redécouvrir. Je ne dirais pas que cela crée un sentiment amoureux, mais si tu en viens à te souvenir très exactement pourquoi tu es tombé amoureux de cette personne-là, c'est assez grisant, merci. Pour vous donner une idée, les questions vont « Quand avez-vous chanté pour vous-même pour la dernière fois? » « Pour quelqu'un d'autre? » Question 5 à « Y a-t-il une chose que vous rêvez de faire depuis longtemps? Pourquoi ne l'avez-vous pas faite? » Question 14. Ou encore, dites à votre partenaire ce que vous aimez chez lui ou chez elle. Soyez très honnête en disant des choses que vous ne diriez peut-être pas à une personne que vous venez de rencontrer. Question 28. Parmi tous les membres de votre famille, la mort, de qui vous toucherait le plus? Pourquoi? Question 35. Vous voyez, de la plus innocente à la plus intime des questions. Il y avait aussi cette question où il faut raconter sa vie en 4 minutes chrono. C'est l'essentiel qui sort. Je discutais plus tôt cette semaine avec la docteure Sophie Bergeron, une chercheuse financée par les Instituts de recherche en santé du Canada. Beaucoup de gens se disent insatisfaits de leur vie sexuelle. Une personne sur deux, selon certaines études. Comment faire alors pour raviver la flamme? Selon elle, la recette n'a rien de sorcier. C'est de se réserver des moments de véritable intimité émotionnelle en couple. Vider le lave-vaisselle ou regarder la télé à deux ne compte pas. On a parfois cette perception que l'amour est une sorte de sortilège, un phénomène magique qui échappe à tout contrôle, alors qu'il suffit parfois de se confier nos secrets pour l'enflammer de nouveau. Alors, il nous propose la liste des questions du Dr. Arthur Aaron. Je ne vous lirai pas les 36 questions, mais je peux vous en lire quelques-unes. Alors, aimeriez-vous être célèbre? De quelle manière? Avant de passer un appel téléphonique, répétez-vous parfois ce que vous allez dire? Pourquoi? À quoi ressemblerait une journée parfaite pour vous? Si une boule de cristal pouvait vous révéler la vérité sur vous, votre vie, le futur ou quoi que ce soit d'autre, que voudriez-vous savoir? Y a-t-il une chose que vous rêvez de faire depuis longtemps? Pourquoi ne l'avez-vous pas faite? Quel est le plus grand accomplissement de votre vie? Et une autre suggestion de question, c'est-à-dire une autre lecture d'une autre question. De quoi ne peut-on pas rire? Si vous deviez mourir ce soir sans la possibilité de communiquer avec qui que ce soit, que regretteriez-vous le plus de n'avoir pas dit à quelqu'un? Pourquoi ne pas le lui avoir dit encore? Alors voilà, il y en a 36 questions vraiment inspirantes. Dans le Nouvelliste, Framboise contaminée au moins 2 décès au centre du Québec. Ce sont finalement 2 personnes qui ont perdu la vie dans la région au printemps dernier, en lien avec la consommation de framboises contaminées provenant de Chine. Des 345 cas enregistrés dans la région de la Mauricie et du centre du Québec, c'est spécialement du côté de la rive sud du fleuve que les cas de contamination ont été enregistrés. C'est ce qui ressort des analyses réalisées par le CIUS Mauricie et Centre du Québec, qui a eu à intervenir par le biais de la Direction régionale de la santé publique lors de ces éclosions. La très grande majorité des cas a d'ailleurs été enregistrée dans des résidences pour personnes âgées de la région d'Arthabasca et de l'Érable. Rappelons qu'au printemps et à l'été dernier, plus de 700 cas confirmés au potentiel de nouveaux virus avaient été signalés au Québec, dont la plus grande partie dans la région. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ainsi que le ministère de la Santé ont conclu à la suite d'une enquête épidémiologique et alimentaire à une contamination de framboises congelées et importées de la Chine. Une contamination au nouveau virus, un groupe de virus associé au gastro-entérite, entraîne des symptômes également apparentés aux gastro-entérites. De plus, il est extrêmement contagieux lorsqu'une personne est en contact avec une personne infectée ou avec une surface contaminée qui n'a pas été désinfectée. Aujourd'hui, le CIUS-MCQ est en mesure de confirmer que les éclosions sont survenues dans les 6 CHSLD d'Arthabaska et de l'Érable, de même qu'au CHSLD de Lister, tous au centre du Québec. 3 éclosions sont survenues, soit en mars, en avril et en mai. Des 345 enregistrés à la Direction de la santé publique, 2 cas ont mené à des décès. Dans le soleil, un objectif de 3,5 millions sur 2 ans pour le patrimoine religieux. C'est une ambitieuse campagne de financement que se prépare à lancer la Fondation patrimoniale Notre-Dame de Québec, 3,5 millions à aller chercher pour embellir le patrimoine religieux de la Basilique cathédrale Notre-Dame de Québec et l'église Notre-Dame des Victoires. On parle d'une campagne de 3,5 millions qui se déroulera sur 2 ans et dont les détails restent à définir, a déclaré au Soleil Mgr Denis Bélanger, président de la Fondation et curé de la paroisse Notre-Dame lors d'une soirée tenue mardi au Port de Québec pour souligner la nomination de Mario Girard, PDG de l'administration portuaire, à titre de président d'honneur. Oui, je le veux, mais pas l'Église, l'aura l'évêque dans le quotidien. Un peu plus de 640 mariages ont été célébrés au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2016, soit une 20aine de moins que l'année précédente. Et les célébrations laïques ont maintenant largement dépassé les fêtes religieuses. Quelques 409 couples ont opté pour un célébrant civil, alors que 231 ont officialisé leur union à l'Église, selon les derniers chiffres fournis par le diocèse de Chicoutimi. La diminution est constante depuis les dernières années. Il y a eu d'importantes baisses, mais on remarque une stabilité dans les 2 dernières années, constate l'abbé Jacques Bouchard du diocèse de Chicoutimi. En effet, le nombre de mariages religieux a légèrement varié depuis 2015, passant de 235 à 231, ce qui représente une baisse d'environ 1,7. Les unions civiles ont connu quant à elles une baisse de 3 pour la même période. L'hémorragie semble s'être arrêtée, espère le diocèse. Qui dit amour dit feu d'artifice. Les grands feux Loto-Québec seront présentés le jeudi plutôt que le mercredi. Les responsables du spectacle pyrotechnique qui anime les quais de Québec et Lévis en août estiment que le jeudi est plus propice aux sorties urbaines et en famille. Des soirées se tiendront aussi toujours le samedi du 2 au 23 août. L'organisation souhaite notamment miser sur le virage initié l'an dernier vers un caractère davantage participatif, avec des soirées thématiques de danse qui commencent à 21h. La programmation détaillée des Grands Feux 2018 sera rendue publique à la fin du printemps. On sait toutefois que les spectacles pyro-musicaux se tiendront sur le fleuve Saint-Laurent les 2, 9, 11, 16, 18 et 23 août. Merci d'écouter le quotidien des quotidiens. Hélène Denis qui vous accompagne avec grand plaisir en ce mercredi de la Saint-Valentin. Restez avec nous, les actualités culturelles et les sujets libres à venir.
Parfait comme un désert quand la tempête passe sur moi. un grain de beauté où je m'en vais boire. Je reste là, les yeux ouverts sur un mystère pendant que toi tu dors. Comme un trésor au fond de la mer. Je suis comme un scaphandre au milieu du désert qui voudrait comprendre mon manque d'air. Et midi moins quart et la femme de ménage est dans le corridor pour briser les mirages. T'es tellement, tellement, tellement belle. Un envoi du ciel. Je ne crois pas mon corps. Était une prisonnière en permission, qu'importe le partenaire. Je dois être le vrai portrait de ton père. Une daredevil, Nefertiti, des sensations, c'est-tu ta philosophie? D'aller coucher avec un homme taillé. Pour moi, te dis à ta chum, check le gars avec des lunettes. Je vais te gager un rang que j'y fixe le squelette. Et midi moins cinq, et la femme de ménage est là pour faire rien que compter les naufrages. Tellement, tellement, tellement belle. Un bateau géant dans chambre à coucher. Je suis l'océan qui veut toucher ton. Je pense que je l'ai, je t'ai sauvé la vie dans que pays, dans une vie antérieure. La fois que je t'ai dit, va pas à Pompéi. C'est quoi d'abord, si c'est pas ça, c'est à cause d'un gars qui te tordu le cœur. J't'arrive et drette avant que tu meurs. C'est pas pour mon argent, ni pour ma beauté, ni pour mon talent. Tu voulais-tu me tuer? Et midi tapant et la femme de ménage
à cognant hurlant. Je veux changer de personnage. T'es tellement, tellement, tellement belle. Je vais finir la rue. Je vais brûler l'hôtel. Tu m'aimes-tu? Tu m'aimes-tu?
Monsieur Richard Desjardins, en version symphonique, tirée de l'album Richard Desjardins Symphonique, paru en 2009, cette excellente pièce, Tu m'aimes-tu?
Excellent choix, Jean-Sébastien. Livre pour amorcer ce segment culturel, Frédéric Becbédé, éternel écrivain. Dans Une vie sans fin, Frédéric Becbédé mène une enquête journalistique sur les avancées scientifiques qui permettront bientôt de prolonger notre vie. En filigrane, l'auteur de 99 ans accepte finalement de vieillir et d'assumer son rôle de père. Nous avons profité de la sortie de son roman pour parler d'écriture, de paternité et de relations hommes-femmes à l'heure de « Moi aussi » et de « Balance ton porc ». C'est Nathalie Collard qui l'a rencontré. Comment vous est venue l'idée d'un roman sur la vie éternelle? J'ai toujours eu peur de mourir. Je parle de ça dans presque tous mes romans. Tous les écrivains parlent d'abattre la mort. C'est pour ça qu'on écrit, je crois. Ensuite, ma mère a eu un infarctus et mon père est tombé dans un hôtel. Les deux se sont retrouvés à l'hôpital au même moment et j'ai perdu des amis de mon âge. Bref, j'ai compris que ça se rapprochait pour moi aussi. Et surtout, il y a eu cette question de ma fille. Est-ce vrai que tout le monde va mourir? Je suis un lâche, je n'ai pas osé lui répondre la vérité. Alors je lui ai dit qu'aujourd'hui, on ne mourrait plus. Et j'ai décidé de me lancer dans cette enquête complètement dingue. C'est un roman, mais c'est aussi une enquête journalistique. Comment l'avez-vous construit? J'ai toujours écrit des livres qui étaient un mélange de fiction et de non-fiction. 99 francs était à la fois un roman sur un publicitaire qui pète les plombs et une enquête, voire un essai sur le fonctionnement de ce métier. J'aime bien écrire des choses documentées et réalistes, mais en même temps, ça ne m'interdit pas d'inventer des choses, des personnages. J'essaie de faire tomber la frontière entre la fiction et la non-fiction. Question. Vous avez rencontré des sommités de la recherche scientifique en Europe et aux États-Unis. Êtes-vous surpris qu'ils aient le temps de discuter avec un romancier? Je crois qu'ils ont envie d'expliquer ce qu'ils font, pas seulement aux collègues, mais à des gens d'autres horizons. Ce qui se passe en ce moment est tellement incroyable. Ils ont tous fait un gros effort de pédagogie pour expliquer des choses complexes avec des mots simples. Ils m'ont parlé comme si j'étais un enfant de 4 ans, rire, entre parenthèses. Par ailleurs, j'avais un peu potassé avant. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur les progrès de la génétique, les cellules souches, etc. Question. Vous parlez beaucoup de votre paternité dans ce livre. Ce livre, au départ, est l'histoire d'un homme de 50 ans qui a peur de mourir et qui essaie de sauver sa peau et celle de ses enfants. Mais au fur et à mesure qu'il poursuit son enquête sur l'immortalité, il découvre qu'il est déjà immortel grâce à sa paternité. En fait, pas besoin d'aller chercher trop loin. L'amour et la littérature sont les deux choses qui nous permettent de battre la mort. Mon roman est un livre sur un homme qui se transforme. Parlant de transformation, le monde dans lequel vous publiez ce livre n'est pas tout à fait le même que celui dans lequel vous avez commencé sa rédaction. Que pensez-vous des mouvements comme « Moi aussi » et « Balance ton porc » ? Je suis le père de deux filles, dont l'une de 18 ans. Évidemment que je suis archi favorable à ce que toutes les agressions sexuelles soient dénoncées et punies. Je suis contre le harcèlement, contre les hommes qui importunent les femmes, ça me choque. Je n'ai pas du tout envie que ma fille soit importunée dans la rue. Je veux qu'elle puisse s'habiller comme elle le souhaite, qu'elle soit payée le même salaire qu'un homme. Je dis des banalités, mais il ne faut pas les oublier, car il n'y a pas que les femmes qui doivent être féministes, les hommes aussi. Un homme comme moi est tout naturellement pour l'égalité entre hommes et femmes, je veux être claire là-dessus. Après, je crois qu'il y a des excès. « Balance ton porc » est une formulation épouvantable. Je n'aime pas qu'on balance et je n'aime pas qu'un homme soit comparé à un porc. Il y a une infime minorité d'hommes qui sont des gros cons, et même des criminels. Et je suis pour qu'on les punisse, mais ensuite, il faut qu'on arrive à trouver un nouveau code amoureux pour faire en sorte que les hommes et les femmes puissent continuer à s'aimer. C'est ça l'enjeu, non? Comment on va faire pour s'aimer? Vous avez quelques idées? Peut-être que les femmes devraient aborder les hommes un peu plus souvent, répond Frédéric Becbédé. Pour les hommes, c'est quand même difficile. Il faut avoir du courage pour oser exprimer son désir. C'est compliqué. Il faut le faire avec délicatesse et tact. Il faut accepter de nombreux refus. Et dans ma vie, Dieu sait comment j'en ai eu des refus. Rire encore, entre parenthèses. Quand quelqu'un vous dit non, ça fait mal. C'est une déception, il faut encaisser. Après 10 000 ans de domination masculine, il est temps que ce soit les femmes qui fassent les premiers pas. Moi, je ne bouge plus. Je reste assis dans mon fauteuil et j'attends qu'on vienne me parler. Rire encore une fois. De toute façon, je suis un homme marié et je suis fidèle, alors le problème ne se pose pas. Question. Qu'avez-vous pensé de la fameuse lettre sur le droit d'importuner signée par Deneuve, Millet, etc.? J'ai trouvé que c'était une belle démarche courageuse de dire que la drague n'est pas un délit. Une phrase que j'ai trouvée importante d'entendre en tant qu'homme. En revanche, je ne souhaite pas que ma fille soit importunée et je crois que c'était maladroit d'employer ce terme. C'était également maladroit de dire qu'on se remet facilement d'une main aux fesses ou de quelqu'un qui se frotte contre nous. C'est grave, c'est une forme d'irrespect et de violence et c'est répréhensible. Cette lettre qui était destinée à apaiser les choses n'a rien apaisé du tout. Donc, je pense qu'elle n'était pas très bien rédigée. Je pense souvent à cette phrase de Marguerite Duras dans « Hiroshima, mon amour ». Tu me plais. Quel événement! Quand une personne regarde une autre personne, c'est un événement précieux qu'il faut protéger. Ce qui m'emmerde dans toute cette histoire, c'est qu'on abîme le désir à cause de certains hommes. Une vie sans fin de Frédéric Becbédé est disponible et publiée aux éditions Grasset, 360 pages de lecture. Dans le Journal de Montréal, on apprend que Sophie Lorrain a un nouveau projet. L'actrice planche sur une série de 24 épisodes adaptés d'une émission populaire en France. Sophie Lorrain n'aura pas besoin d'appeler son agent pour trouver du travail après Au secours de Béatrice. L'actrice produira, réalisera et jouera dans l'adaptation québécoise de 10%, cette populaire série française qui explore les dessous d'une agence artistique et dans laquelle des personnalités connues viennent jouer leur propre rôle. Cette nouvelle mouture entrera en onde en septembre, composée de 24 épisodes d'une heure. La première saison sera produite par Forum Film et Also, la boîte de Sophie Lorrain et Alexis Durand-Brault en collaboration avec Québécois.
Have you ever been? Touch the moonlight when your heart is shooting stars, you're holding heaven in your arms. Have you ever been so in love? Have you ever walked on air? Ever felt like you were dreaming? That good. Have you ever been so in love? Have you ever been in love? You could touch the moonlight. When your heart is shooting stars, you're holding hands. Look.
Have you ever said a prayer and found that it was answered? All my hope has been restored and I ain't looking anymore. Have you ever been so in love? Have you? Some place that you somewhere you're gonna stay, yeah. When you finally found the meaning, have you ever felt this way, yeah. The time I spent waiting for something that was
Madame Céline Dion, have you ever been in love?
Allons-y avec un article dans Le Devoir. La ville retire le visuel contesté par l'artiste Logart. La ville de Montréal a retiré de ses plateformes numériques l'illustration qu'elle avait commandée pour le défi des villes intelligentes à la suite des accusations de plagiat d'un artiste montréalais. C'est Guillaume Bourgault-Côté qui signe l'article. Le studio qui a créé le visuel dément toute intention de copier. La Ville de Montréal prend très au sérieux l'intégrité des processus créatifs en production graphique, a indiqué au Devoir un relationniste de celle-ci. Nous avons retiré l'illustration de nos différentes plateformes le temps que des vérifications diligentes soient effectuées dans ce dossier. Pour Mouna Andraos, cofondatrice de la firme qui a produit le visuel, Daily tous les jours, le dossier découle d'un malentendu. Nous sommes tristes qu'on accuse la ville de vol parce qu'il n'y avait de notre côté aucune intention de copier, disait-elle mardi en entretien. La semaine dernière, l'artiste Logart, Chris Sweden, avait dénoncé notamment dans Le Devoir que le visuel de la campagne Défi des villes intelligentes utilise un graphisme qui non seulement s'inspire grandement des illustrations Cityline créées en 2014, mais qui utilise aussi plusieurs éléments provenant de celle-ci et ce, de façon identique. Nous aussi sommes surpris par la ressemblance entre notre visuel et votre travail, avait rapidement répondu la ville dans un message Facebook. Depuis, Montréal ne veut plus commenter un dossier qui pourrait être judiciarisé. Logart a envoyé une mise en demeure et demande un dédommagement. Quelques 700 personnes ont signé une pétition pour l'appuyer. Mouna Andraos défend aujourd'hui le processus créatif ayant mené à la création du visuel. Celui-ci a été créé cet automne en marge d'un congrès portant sur les villes intelligentes où les activités d'une ville intelligente devaient être présentées dans un langage visuel simple et clair, relate-t-elle. Le visuel contesté par Logart présente des extraits de dessins plus grands publiés dans le cadre de ce congrès. Il constitue une représentation horizontale et épurée de quelques lieux cultes de Montréal. Selon Mouna Andraos, il est presque inévitable qu'il y ait des similitudes entre différentes illustrations quand on dessine des icônes et qu'on cherche à simplifier leur représentation, dit-elle. Si on demande à quatre illustrateurs d'illustrer le stade olympique, on aura des illustrations plus ou moins similaires. Le problème, c'est le plus ou moins. Mais entre ça et le plagiat, il y a une grande différence. Elle prend l'exemple de l'oratoire Saint-Joseph très semblable dans les versions de Lugart et Daly. Il arrive que pour le même défi, on trouve les mêmes solutions, dit-elle. Il y a 5 portes et fenêtres au bas de l'oratoire, mais on en voit 3 sur les dessins. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de proportion. 5, ça ne rentre pas. Alors on simplifie et on va naturellement prendre un chiffre impair. Beaucoup de gens travaillent sur la simplification des images, ajoute-t-elle. Les techniques peuvent se ressembler. Nous sommes aussi tous exposés aux mêmes choses en ligne. Madame Andreas soutient que Daly, qui a notamment créé une œuvre de l'exposition sur Leonard Cohen au Musée d'art contemporain de Montréal, a fait une introspection profonde et est remonté aux premières versions des dessins pour conclure que tout a été fait correctement. La montagne cul-de-sac, c'est la chronique de Marie-Claude Lortie dans la presse. C'est vrai, admet Luc Ferrandez, que c'est réellement une pause fortuite, presque un moment de grâce. J'ai Luc Ferrandez au bout du fil et on parle de la traversée en voiture de ce Mont-Royal qu'il veut transformer en impasse. Il reconnaît que c'est un plaisir de prendre la montagne pour traverser la cité, surtout au coucher du soleil ou quand la ville stresse et que ses arbres relaxent. Mais le maire du plateau et maintenant responsable des parcs à la ville, ne bronche pas. Il veut en faire un cul-de-sac. Un cul-de-sac à auto, un chemin sans issue, une voie sans compromis. On discute et on a justement l'impression d'être au bout d'une route qui ne veut pas aller plus loin. Son idée est faite. Même s'il est d'accord que grimper et descendre tranquillement la montagne en voiture pour passer de l'est à l'ouest de la ville est un moment de bonheur, il faut y mettre fin. Faites le deuil de votre parkway, m'a-t-il dit hier en entrevue, la discussion est terminée. M. Ferrandez est convaincu que dresser un mur entre l'Est et l'Ouest est la seule solution aux tragédies routières. Dites-lui que ce chemin fait partie de nos quotidiens, de nos plaisirs à vivre en ville, qu'il relie deux versants de la ville géographiquement et culturellement, qu'il est au cœur de nos paysages urbains, que ceux qu'on veut voir tous les jours, on parle ici de paysages, pas juste les week-ends, qu'il fait partie des lieux spectaculaires qu'on montre aux touristes, bref, de notre ADN, et il évoquera la mort du jeune cycliste l'automne dernier. C'est vrai que cet argument est efficace. Personne ne veut être contre la vertu et avoir l'air d'un gros cave insensible. Pas facile donc de dire haut et fort qu'on est contre ce projet pilote devant entrer en vigueur au printemps. J'ai d'ailleurs tout entendu depuis que j'ai commencé à dire que je n'étais pas d'accord avec cette idée de nous obliger à faire un demi-tour une fois rendu en haut du Mont-Royal, de revenir sur nos pas. T'aimes pas le vélo? T'es pro-auto? Et la mort du jeune cycliste? Soupir. Évidemment, j'adore le vélo. Je ne suis pas exactement une conductrice de VUS fanatique de la pollution et de la congestion. Et oui, j'ai été profondément touchée par la mort du jeune Clément Ouimet. Et je demeure follement inquiète pour les autres cyclistes qui s'éclatent sur la voie Camillien Houd comme il le faisait, à des vitesses de folie, comme l'a décrit sa mère dans l'entrevue accordée à la presse. Je suis même très sensible à la nécessité d'apporter d'importants correctifs à la situation actuelle pour chasser les cow-boys du volant. Mais est-ce que je trouve qu'il faut empêcher totalement les Montréalais de traverser la montagne? Non. Je déclare mes intérêts. J'utilise ce chemin. Pourquoi? Parce que c'est une route magnifique. Ce n'est pas une façon de gagner du temps, à moins de bouchons majeurs liés à la construction sur Côte-Sainte-Catherine, Édouard Monty, l'avenue des Pins ou Dr. Penfield, il ne fait pas gagner du temps. Prendre ce chemin, c'est plutôt juste pour moi une façon de plonger dans le parc et vivre autrement la ville. Et je me dis « wow » chaque fois. Prendre ce chemin apporte la montagne dans ma vie d'une autre façon que la course sur le chemin Homestead ou le patin au lac au Castor. Je prends ce chemin de la même façon que lorsque j'habitais Ottawa. Je prenais la promenade du colonel Bay pour longer le canal Rideau et traverser la capitale du nord au sud. Ce n'est généralement pas plus rapide, juste tellement plus zen et joli. C'est une façon différente de se déplacer. C'est ce que les concepteurs de ces parcs voulaient en faire. Dans son entrevue au micro de Paul Arcand il y a quelques jours, comme avec moi hier, Luc Ferrandez a en outre été très clair. Le but de la conversion des chemins du Mont-Royal en cul-de-sac n'est pas uniquement une question de sécurité. Le but, c'est aussi de déplacer la circulation ailleurs. Et si cela crée d'autres bouchons, tant pis. L'administration veut convaincre les Montréalais de ne plus prendre leur voiture. Mais est-ce une bonne façon de changer les habitudes? N'y a-t-il pas moyen plutôt de chercher des compromis? Et veut-on vraiment augmenter la circulation sur les deux axes évidents de contournement de la montagne, Édouard-Montpetit et Despins, qui tous deux transpercent les campus de deux universités et sont fréquentés chaque jour par des milliers d'étudiants? Quand il y aura un accident en face de l'Université de Montréal ou de McGill, un jeune fauché par un chauffeur fâché, bloquera-t-on ces artères aussi? Le problème que l'on veut diminuer, c'est la vitesse et le nombre de voitures. OK. Et on veut protéger les cyclistes. OK. Pourquoi pas plus de feux, d'arrêts, de dos d'âne, de limites de vitesse plus strictes, une voie plus étroite, une piste cyclable aménagée de façon sécuritaire? Pourquoi ne pas limiter la circulation sur des périodes précises, le week-end, comme on fait à Central Park, ou limiter le transit durant les heures de pointe, comme on le fait pour limiter l'achalandage utilitaire de certains secteurs dans toutes sortes de villes européennes? Les solutions possibles sont multiples. Et que va-t-on faire exactement avec les cyclistes qui descendent de la côte à 80 km/h, circulation bloquée en cul-de-sac ou pas? On les protège comment exactement d'une chute ou d'un accident? Et on fait quoi des visiteurs arrivant de l'Est qui voudront accéder au secteur ouest, là où on patine et où on fait des barbecues? Devront-ils faire le tour de la montagne pour arriver du bon côté? Même chose pour ceux qui arrivent de l'ouest et veulent juste aller au Belvédère et dont les voitures seront bloquées presque à mi-chemin de leur périple. La liste des aberrations est interminable. Mais la principale absurdité, c'est cette idée que bloquer une voie, couper une ville en deux, isoler un parc est une solution pour avancer, s'unir et se développer. Merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis qui vous accompagne et restez avec nous si vous nous écoutez en direct. J'anime dans quelques minutes les paractualités. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical, même aux demandes spéciales. Bonne Saint-Valentin tout le monde!